Peut-être y étiez-vous. En août dernier, la dernière semaine d'août en fait, s'est tenu à Gruyère le troisième atelier de lutherie ancienne. Pour musique en mémoire, David Mechtry s'y est rendu. Il y a assisté, il y a participé. Il a rencontré les maîtres luthiers Philippe Motterio et David von Edwards qui ont réalisé avec les stagiaires deux superbes instruments médiévaux, un luth et une guiterne. Et en parallèle à l'atelier, dans les cuisines du château, le bourg de Gruyère accueillait un véritable festival de musique médiévale dont les échos retentiront aussi dans cette série d'émissions de musique en mémoire, notamment par les luthistes Francis Bidji et Crawford Young, ainsi que par Carlos González, dont David Mechtry m'annonce qu'il est le plus grand spécialiste de ces mystérieux instruments disparus qui ont nom guiterne, vielle ou citole. Alors avant de vous retrouver, avant de nous retrouver dans les cuisines du château de Gruyère, au son des limes et autres rabots, je vous propose d'entendre immédiatement l'ensemble italien La Reverdi pour une page de musique instrumentale, avant de rencontrer Philippe Motterio, donc luthier à Bulle, instigateur de ce troisième atelier de lutherie ancienne, ainsi que David von Edwards, qui est un maître anglais de la lutherie médiévale, donc, dont je me permettrai de traduire les propos.
Vous faites là un travail de rabotage très précis. Qu'est-ce que va devenir cette pièce ?
Ça fait le chevet pour la lutte médiévale.
Le chevalet ?
Oui.
Qui sera tout petit, alors tout plat comme ça ?
Oui. C'est plus épais ici et moins épais.
Et ça, c'est voulu. Oui. Ça doit être plus épais d'un côté. Oui. Du côté des cordes basses, j'imagine.
Oui, c'est ça.
C'est quel bois ?
C'est la poire.
Poirier.
Poirier, oui. Une belle couleur.
Mmh. Oui. Aussi, c'est du bois très serré. Je pense que c'est du bois spécialement qui a séché pendant longtemps avant d'être utilisé.
Peut-être, je ne sais pas. Il doit être séché, bien sûr. Mais je ne sais pas combien d'années.
Et là aussi, encore un travail de précision sur une toute petite pièce avec une lime. Ça va être, j'imagine, une des chevilles dans des instruments.
C'est exact, oui.
C'est aussi du poirier ?
Ça, c'est du prunier.
Oui. Un beau bois brun, comme ça. Enfin, prune, couleur prune, presque, déjà un peu violet. La pièce est fine et a une grosse tête encore carrée. Ça va devenir quelle forme après ?
Oh là là, il y a une petite forme de cœur sur le dessus et elle est totalement cylindrique et conique, quoi.
Ce sont les chevilles du luth ?
Oui, les chevilles du luth.
Il y en a quoi, combien ?
Mon Dieu, bonne question. Il y a combien de chevilles ? Un luth ? Quatre ? Non, cinq.
Corps du luth, ça fait 10.
10 chevilles.
5 heures, donc, oui.
Et sans compter celles qui vont encore peut-être pas arriver jusqu'au bout. Il faut s'assurer de quelques-unes de réserve.
Oui. C'est fragile encore, quand même.
Oui, parfois on arrive au bout et tout d'un coup ça se défibre et puis là, on choisira les plus belles aussi.
L'instrument devait être prêt à jouer samedi, c'est ça ? Si tout va bien ?
Non, ce ne sera pas possible de le jouer, il faudra encore mettre les cordes et tout. Ça ne sera pas possible et faire la finition. Mais ça sera déjà... Il sera terminé en tout cas, on espère. Ouais.
Ça, c'est déjà la rosace de l'instrument ou c'est un modèle ?
C'est un modèle. Oui. C'est pas la rosace.
C'est très joli. C'est donc sculpté sur le bois aussi. C'est,
sur le bois, oui. C'est très... Là, on a fait un collage de papier pour le modèle, mais elle est prise sur la table, donc elle est aussi en sapin.
Donc, il faut évider là, avec des travaux très précis. Ouais. Ça se fait avec quel instrument, ça ?
Oh là là, il y a plusieurs petites gouges, des pointeaux, tout petit. Mmh. Ça ne se fait pas la scie à découper, mais tout au pointeau, à la gouge. Ouais.
Vous êtes une des participantes à ce stage donc, de l'UTRI.
Oui, Monique Fidanza.
Et vous avez l'habitude de travailler le bois?
Je suis ébéniste, mais je n'ai rien à voir avec la lutherie.
Quelles sont les différences alors?
Oh, c'est au point de vue de la finesse. Et puis bon, il y a toute cette problématique des épaisseurs par rapport à un son. Il n'y a pas seulement le côté, je dirais, esthétique et solidité de l'instrument. Il y a encore cette partie son qu'on n'a pas. Évidemment, dans l'agencement ou même dans la restauration de meubles, on n'aura pas ce genre de problématique. Mais c'est très intéressant de travailler. Et justement, c'est le détail et il y a une précision. C'est la microchirurgie, on dira, pour ébéniste.
Et les scalpels et les bistouris, c'est des instruments que vous connaissez?
Tout à fait. Ouais, ben, en tout cas, ici, on côtoie ça tous les jours, oui.
Mais... C'est les mêmes instruments que vous avez pour faire de l'ébénisterie?
Oui, mais en plus petit, nettement plus petit.
Et tout est mécanique, évidemment, il n'y a pas d'instrument. Même pour les découpages des grandes planches, il n'y a pas d'électricité.
Non, en tout cas pas dans cette réalisation.
Oui. Il y a des luthiers qui utilisent
Je pense, ça il faut demander aux professionnels. Mais...
Je vais demander à Philippe Motério.
Voilà, tout à fait, merci.
Philippe Motério, donc ici tout est fait comme travail avec des instruments mécaniques, même le découpage des pièces à l'origine, ou non, il y a eu une partie qui est venue d'une scierie électrique ou...
Oui, quand même, parce qu'on essaye de finir les instruments en une semaine. Alors on n'a pas tout à fait le temps qu'on voudrait pour tout faire à la main, ce qui est possible bien sûr.
Mais il y a des luthiers qui travaillent avec des instruments modernes, des scies électriques ou des choses comme ça?
Oui, pour une certaine partie du travail, les mises à épaisseur souvent sont faites, sont disons préparées avec des machines et finies au rabot. Je crois que Monique, qui est l'ébéniste de l'équipe, trouve également après quelques jours que ça a une utilité de faire certaines opérations avec des outils à main, des joints entre les pièces qui sont toujours faits en ébénisterie avec des grosses machines. Quand on les fait avec des tout petits rabots, c'est finalement plus précis.
Et puis la qualité du bois, c'est très différent de ce qu'on utilise pour des meubles.
Ben dans tout travail, au départ, c'est le choix. Hein. Oui. Tout part de là. Effectivement, nous, on regarde l'esthétique, le côté sain du bois, mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté point de vue des fibres, c'est beaucoup plus contrôlé, enfin, c'est beaucoup plus important déjà.
C'est des bois de luxe finalement aussi, c'est des pièces, des parties de luxe de l'épicéa ou du prunier.
Pas autrement, enfin, mais c'est du bois bien choisi, quoi. C'est pas le sapin au bord de la forêt, enfin le premier sapin au bord de la forêt, quoi. Il faut le chercher. Il faut que ça pousse lentement, qu'il y ait des veines très régulières. Ouais, il y a tous ces paramètres qui sont très importants au niveau de la résonance, quoi.
Philippe Motério, c'est donc des bois qui ont séché aussi pendant de nombreuses années.
Oui, il faut prendre du bois très sec. En fait, plutôt que de le sécher pendant des années très très longues, il faut prendre du bois qui était coupé au bon moment. C'est ça qui fait qu'il sèche bien.
C'est quoi le bon moment alors pour sécher?
C'est la lune noire en hiver, soit novembre, soit décembre. C'est-à-dire le moment où la sève est vraiment au plus bas possible, c'est-à-dire que la partie du tronc qu'on va utiliser est vide de sève, donc les fibres sont aérées et vont conduire le son beaucoup plus facilement que des veines à l'intérieur du tronc qui seraient pleines de sève séchée. La sève, en fait, ça va prendre des années et des années pour cristalliser, pour sécher, et s'il y en a peu, ça ira beaucoup plus vite, voilà le principe.
Et puis pour que le bois résonne bien, comment est-ce qu'on le choisit? Il y a un métier qui est cueilleur de bois, non? On trouve un peu dans cette région ici, on est à Gruyère, mais dans le pays d'en haut.
Un bon cueilleur de bois, comme je disais, il va couper l'arbre au bon moment. Et pour le choisir, il y a plein de paramètres assez compliqués. Il faut prendre une forêt pas trop en pente, une forêt assez plate, pour que les arbres n'aient pas un contour au départ. Qu'il pousse droit, il faut un arbre mâle si possible, un sapin rouge entouré d'arbres assez près pour qu'il n'y ait pas trop de branches. Il faut si possible prendre une forêt assez froide, donc une face nord, où les changements de température ne sont pas trop vifs, etc. Je crois que la liste est assez longue et puis c'est un métier en soi. Oui.
Et puis après, quand on a abattu l'arbre, on doit encore le découper, on se rend compte à ce moment-là aussi s'il sonne bien. J'ai vu des cueilleurs frapper le bois avec leurs doigts et ça résonne déjà comme si c'était un instrument de musique.
Effectivement, avec l'épicéa, on a toujours une percussion qui nous donne une indication sur la valeur sonore, même des planches assez grosses, et on choisit d'après ça, avec les oreilles beaucoup plus qu'avec les yeux dès le départ. À l'œil, on prend un bois qui a une veine assez marquée, assez régulière. Ici, pour le luth médiéval, on a choisi une planche avec des traînées de résine très très marquées. On appelle ça des chenilles ou des oreilles de lapin, qui sont pour l'œil vraiment magnifiques. Mais pour la sonorité, ça n'a pas une différence. C'est presque comme un décor à l'intérieur du bois et sous le fini, sous le vernis, c'est vraiment magnifique.
Et vous pouvez nous faire résonner un peu cette lamelle que vous avez là ?
On va mettre cette table à épaisseur. Pour le moment, elle est à peu près deux fois trop épaisse. Et pour finir, elle aura 2 mm. Et plus on descend, plus on l'affine, plus la fréquence descend. Donc, après, on a une table très molle avec une fréquence très très basse. Et on remonte vers les aigus en collant à l'intérieur des barres avec des schémas assez précis pour avoir, une fois l'instrument terminé, certaines parties qui répondent aux fréquences graves, donc aux notes basses, et puis d'autres qui répondent très bien aux notes plus aiguës pour avoir un instrument équilibré. Et là, il y en a plusieurs, oui, concentrés de résine. Oui, oui. Et par transparence, on voit quelque chose de plus sombre.
Ça, oui,
et on a
oui,
le
oui,
même effet ici.
Dans la tête,
ici.
Oui.
C'est comme un barrage à l'intérieur, moi, je suis oui, sûr de ça.
Je crois que c'est une densité augmentée donc, par une concentration de résine.
Jean-Marie est constructeur et restaurateur de violons.
Ah. Oui.
Alors, il regarde d'un œil...
D'un œil de connaisseur, ces bois merveilleux que vous oui, utilisez oui, pour les
et
tables.
Là, son premier sentiment, c'était de dire que les bois sont magnifiques.
Oui. Mmh. Vous avez dit que ce bois-là vient du pays d'en haut, ou bien d'où exactement ?
Oui, en général, l'épicéa, ici, on va le chercher dans le pays d'en haut, parce qu'il est très léger. Moi, je ne sais pas, chaque luthier a ses petits secrets. Moi, je n'aime pas tellement le bois du Jura, qui est plus serré, on a l'impression que c'est un bois plus valable parce que la fibre à l'œil, elle est très très régulière, très serrée, mais le bois des Préalpes, qui est plus sauvage, plus aéré, est beaucoup plus léger et plus sonore.
Is it ready? C'est prêt?
David Van Edwards, yes. Je vous vois montrer comment utiliser cette lime à manche qui est prise là pour arrondir, yes, pour faire la forme du corps de la guitare.
Yes.
Comment est-ce que vous l'avez appris, vous, ça ? C'est un art qui n'existait pas quand vous avez commencé à faire la lutherie.
It's really a question of deciding how best to recreate the form.
La question est vraiment de décider comment recréer la forme avec les mouvements de votre bras, de manière à ce qu'ils la suivent plus exactement. La douceur de la ligne dépend vraiment de l'outil lui-même. Nous avons réalisé que cette forme est le résultat d'un processus naturel. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, c'est une forme vraiment sexy.
I don't know if that answers your question. I wasn't absolutely sure. It's actually quite a sexy shape.
Yes, c'est vrai que cette forme de poire de la guitare yes, ressemble yes, un peu à une paire de fesses, un peu quand on voit l'instrument terminé.
Et sur l'original, c'est encore plus clair si vous le regardez. Nous avons des photographies de l'original qui est incontestablement choquant. Tellement choquant que le premier à avoir écrit sur cet instrument, un Allemand de l'Est, Hubert ou Hermann Heider, a dit qu'il pouvait même s'agir d'une sorte de forme érotique symbolisée.
Erotic form.
Voilà. C'est vrai que quand on voit les photos, c'est.
But I don't believe that really myself. I think it's just a nice form.
Mais moi, je n'y crois pas vraiment. Je pense que c'est juste une forme agréable.
Vous avez fait beaucoup de guitare ?
Non, non. This is my first.
Non, c'est ma première. Mais l'idée nous est venue l'année dernière. Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de faire un luth médiéval. parce qu'il y a un intérêt pour les luttes médiévales dans cette région. Et j'avais noté très souvent dans l'iconographie qu'il était associé à une guiterne. Et pour autant que je sache, très peu de gens ont fait des guiternes jusqu'ici. Donc j'ai pensé, essayons, faisons une guiterne. Elle ira très bien avec le luth. Et voilà. De plus, au début de cette année, il y a une grande conférence à Bâle au sujet de la guiterne et de son association avec le luth. Et maintenant, tout le monde sait ça.
Et le fait de travailler comme ça en équipe avec des gens qui s'y connaissent plus ou moins, dans une semaine pour faire deux instruments comme ça, c'est quelque chose qui ressemble à ce que pouvait être un atelier de lutherie médiévale avec des maîtres, des apprentis.
Yes, it is a little medieval, but I think in the Middle Ages we would have treated the apprentices much worse. We would have bullied them badly.
Oui, c'est un peu médiéval. Mais je pense qu'au Moyen-Âge, nous aurions traité les apprentis beaucoup plus sévèrement. Nous aurions fait de l'intimidation. Mais nous ne les payons pas, ce sont eux qui nous payent. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là, non, en fait. Nous avons déjà fait cet atelier par le passé, et il semble que c'est une agréable manière d'organiser les choses. C'est altruiste. L'Institut obtient, à la fin, des instruments, les gens acquièrent des connaissances, tout le monde y gagne. Nous passons du bon temps et le château se fait de la publicité.
Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de monde parce qu'il y a les gens qui sont en train de préparer les chevilles là-bas, il y a le chevalet qui est travaillé ici, il y a le corps de la guiterne, il y a le collage des lames du luth.
Well, it's difficult sometimes to keep everybody occupied, but it's also there's a lot of work to be done.
Oui, c'est difficile de trouver une occupation pour chacun parfois, mais il y a également beaucoup de travail à faire. Normalement, chaque instrument demanderait plusieurs semaines de travail à une seule personne, et donc nous essayons de répartir les occupations pour que tout le monde soit au travail.
David Van Edwards, vous étiez un des pionniers, vous, de l'art de la lutherie ancienne. Donc c'est un instrument qui avait disparu dans le monde occidental pendant des siècles.
Je ne dirais pas que je suis un pionnier, non. Eh bien, le vrai pionnier est probablement Arnold Dolmetsch au 19e siècle.
Qui était le grand luthiste, mais il fabriquait lui-même ses instruments.
Oui. He was making lutes and particularly recorders and harpsichords.
Oui, il faisait des luthes et surtout des flûtes à bec et des clavecins. Et on a vraiment redécouvert l'idée, c'était dans l'ère au 19e siècle en Angleterre, à cause du mouvement Arts and Crafts, artisanat de William Morris, Ruskin, etc., qui regardait le Moyen-Âge comme une sorte de moment idéal de l'artisanat. Et ils voulaient recréer les instruments et la musique, et ils l'ont fait. Mais ensuite, c'est un peu retombé dans un certain oubli, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette mode est revenue en Angleterre comme une sorte d'intérêt de la part d'amateurs. Et la grande différence a été que nous, ou les gens qui ont redémarré, étaient des étudiants amateurs, et donc ils n'étaient pas réellement des artisans, c'était des universitaires plutôt. Des gens comme Ian Harwood, John Isaacs, et surtout dans le domaine musical, Dean Appleton en Angleterre ont aidé à créer un intérêt pour recréer des vrais instruments. Pendant ce temps, les Allemands, eux, pensaient qu'ils avaient gardé la tradition et qu'ils fabriquaient encore des luths, donc ils ne se sont pas fait de soucis et ont méprisé cette espèce d'activité d'amateur et ont continué à construire ce qui, en réalité, étaient des guitares en forme de luth. Et cela a duré très longtemps, et pendant ce temps, les amateurs anglais en sont venus à être de plus en plus professionnels et érudits, et moi, je fais partie de la deuxième vague, même la troisième, je devrais dire. Et donc, il ne faut pas nous mettre sur le même plan, Harwood, moi, Philippe Mottet, etc.
Philippe and so on.
Et donc vous venez du monde du bois, de l'ébénisterie d'abord, donc vous êtes peut-être
I'm again part of this English amateur. I am an English literature specialist.
Non, je fais partie aussi de ces amateurs anglais. Je suis spécialiste de littérature anglaise, un intellectuel. Et je me suis intéressé à la musique d'abord, puis aux instruments. Et je voulais jouer avant tout, et donc j'ai décidé de fabriquer un instrument, et tout est venu de là. Et j'ai trouvé que j'étais meilleur facteur que joueur, et j'ai donc continué. Mais j'ai toujours aimé enseigner, et Ian Harwood était très généreux pour transmettre ses informations, et cette sorte de générosité a fait avancer les choses très vite. C'était bien mieux que le système fermé des guildes, tel qu'il avait opéré sur le continent, en Allemagne et peut-être en Suisse, avec leurs secrets et leurs commerces spécialisés. Il n'y a donc pas de secret, nous devions simplement les découvrir et donc j'essaye de poursuivre cette idée, de faire passer des connaissances.
Et au Moyen-Âge, il n'y avait pas non plus de secrets, de guildes et de grands mystères qui entouraient l'art des luthiers.
Well, we don't know what they were, but we know that they did regard it as secretive, and certainly there are guild regulations from the 15th century.
Well, nous ne savons pas ce qu'étaient ces confréries, mais nous savons qu'elles étaient considérées comme gardant des secrets. Et c'est vrai, il y a des règlements de corporation au 15e siècle qui montrent que c'était en fait une sorte de protectionnisme. Les gens voulaient protéger leur commerce. Et c'est très intéressant au sujet des facteurs de lutte. Ils étaient tous allemands au Moyen-Âge, à la Renaissance et même pendant la période baroque. Il n'y avait vraiment aucun Français, Anglais, peut-être comme amateur, mais le vrai commerce professionnel était allemand. Et il devait y avoir une sorte de secret commercial. Ils y tenaient très précieusement. Un règlement de corporation de Fussen nous est parvenu et il montre qu'il restait dans les mêmes familles.
So you had this very strange situation where you had overlapping generations. The master...
Cela donne une situation très étrange. Avec des générations superposées, le maître était très âgé, il prenait une jeune épouse, il mourait ensuite, et la jeune épouse se mariait ensuite avec un jeune apprenti, elle vieillissait à son tour et mourait, et lui épouserait à nouveau une jeune femme. Et vous avez donc cet étrange enchevêtrement de générations pendant de longues séries de générations parmi les luthiers de la Renaissance, en particulier pour les Allemands qui s'installaient en Italie.
Les instruments, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à trouver. Souvent, on doit les fabriquer uniquement d'après l'iconographie. Est-ce qu'il y avait une sorte de standard, comme on pourrait imaginer aujourd'hui, évidemment, on pense aux violons, on sait que tous les violons sont pratiquement les mêmes, ou bien est-ce que des instruments étaient complètement différents d'un à l'autre? Est-ce qu'on fait chaque fois des instruments uniques au Moyen-Âge?
Yes, there is a problem. Really, we only have two original instruments for this guitar.
Voilà, seulement deux modèles.
No instruments at all for the medieval lute. None have survived. So
oui,
it's just
il y a un problème. Il n'y a que deux instruments originaux pour cette guiterne et aucun modèle du tout pour le luth médiéval. Aucun n'a survécu. Donc nous ne basons notre travail sur cet instrument que sur l'iconographie établie par Gérard David et sur un manuscrit très intéressant d'Henri Arnaud de Zwolle qui décrit un peu la structure interne d'un luth médiéval.
On n'a pas de données précises pour les proportions, pour le, je veux dire, pour la grandeur.
Yes, it gives no, not for the grandeur, but for the proportion. Yes, is that is given in this treatise by Arnautus Fola.
Pour la grandeur, non, mais pour les proportions, elles sont données par ce traité d'Arnaud de Zwolle. Il nous donne comme indice que la forme est basée sur la géométrie et les proportions. En tout cas, il le dit et nous le pensons, mais il est très difficile d'être précis sur la seule base de l'iconographie, donc nous travaillons vraiment en partie sur des suppositions. Ce qui est vrai aussi de la musique, si vous regardez la musique, il n'y a qu'une seule ligne, et vous voyez tout un ensemble qui joue une centaine d'instruments. Ils inventent tout, mais c'est ce qui rend tout ça intéressant. C'est, je pense, en partie ce qui fait que je m'y intéresse. Je m'intéresse aux idées autant qu'à l'artisanat. L'artisanat n'est qu'un moyen, mais les idées...
That, I think, is partly why I'm interested. I'm interested in the ideas as well as the craftsmanship. The craftsmanship is just a means, but the ideas are...
Il y avait beaucoup de ces instruments, vous pensez qu'ils sortaient des ateliers médiévaux de lutherie c'était des choses très répandues ou très chères pour l'époque?
Yes, I think they probably were. They seem very common in the iconography. You can't really tell where they were in the social status. Is that what you meant?
Oui, ils semblent très courants dans l'iconographie. On ne peut pas vraiment dire dans quel statut social. Quelques références, Je ne connais que celle de la littérature anglaise chez Chaucer, le jeune étudiant, le jeune clerc, a un luth, il a une guitare et il en joue. On ne sait pas ce qu'il y a là de roman ou de réalité, mais il semble qu'il est assez aisé parce qu'il a quelques livres, ils étaient très chers, et il possède quelques instruments. Donc je dirais que ce n'est pas banal, mais assez courant, difficile à dire. Nous avons si peu d'informations tangibles et je n'aime pas l'idée de prétendre en savoir plus que nous ne savons réellement.
I don't like the idea of pretending that we know more than we do.
Et donc là, je vois l'assemblage des lames. Il y a déjà des barres de renforcement qui sont dessous, ou bien c'est provisoire. Ça, c'est les barres qui vont être dans l'instrument.
No, that's just the mold. That's just to hold it in shape.
C'est parti là aussi.
Ah, no. These are just.
Non, c'est juste un moule, une forme pour le contenir. Et celles-ci servent à soutenir les côtes. Pendant que la colle sèche, on les enlèvera et voici la prochaine bande en train d'être formée. Et une fois qu'elle s'adaptera exactement, nous la collerons à sa place et nous la maintiendrons avec ces petites pièces de renfort. Mais elles ne font pas du tout partie de l'instrument.
L'importance là, c'est vraiment de faire joindre parfaitement les deux pièces, les deux lamelles de bois.
Yes, exactly. Yes. That's. It's like an egg. It's a very fragile shell.
Oui, exactement. C'est comme un œuf. C'est une coque très fragile, mais le dessin est très bien fait et le résultat final est remarquablement solide. Mais ça dépend beaucoup de la colle. Et la colle est de la colle ancienne qui est essentiellement de la peau bouillie. Et c'est une colle remarquable.
Which skin is it?
Well, skin of cows mostly. And, very Swiss.
Eh bien, c'est de la peau de vache, le plus souvent. C'est très suisse. Et c'est donc vraiment du cuir qui a été plongé dans l'eau, puis purifié. Et quand vous le fondez au bain-marie, il devient doux, très liquide, avec des molécules de très petite taille. Et ainsi, cette colle entre dans la texture du bois et elle sèche tout d'abord en se refroidissant et ensuite par évaporation pendant longtemps, 2 ou 3 semaines. Et finalement, elle devient aussi dure que du verre. Et de cette façon, elle transmet la vibration d'une pièce de bois à l'autre.
Becomes as hard as glass, very very strong, and so it transmits the vibrations from piece to piece of the wood.
Ça fait une sorte de soudure entre les morceaux.
Yes, that's right.
And oui, c'est ça. Et c'est donc extrêmement solide. Et si vous devez réparer le luth, un peu d'eau bouillante suffit. Et il se sépare en lamelles à nouveau, même 400 ans plus tard. Donc, c'est la colle parfaite. Et si elle avait été inventée hier, elle vaudrait une fortune.
Worth an enormous amount. It's the chemical factory of the cow.
C'est le facteur chimique de la vache. C'est une molécule très complexe avec des chaînes de spirales, c'est génial.
Spiral chains. It's very good. Okay.
Et là, voilà, il y a des instruments qu'on ne verrait pas au Moyen-Âge qui sont des sortes de fer à repasser, c'est pour chauffer la colle simplement.
It's to bend the wood, the cellulose in the wood.
Pour le faire, pour recourber les lamelles.
Yes. So the cellulose in the wood becomes soft at a certain temperature, and when you bend it.
Oui, c'est pour courber le bois. La cellulose du bois devient molle à une certaine température, et quand vous le pliez et le laissez refroidir, il reste courbé. Et c'est le principe de tous les instruments de musique, les guitares, les violons, les luths, tout dépend de cela. Nous avons l'électricité maintenant pour se faire repasser, mais je suppose que les anciens en auraient eu un avec du charbon à l'intérieur. Ça, c'est une technologie qu'on peut comprendre, mais ce que je ne sais pas, nous utilisons du scotch pour tenir les pièces ensemble. Je pense qu'ils utilisaient une sorte de technique de soudure, elle est décrite dans un manuscrit, pour tenir les côtes du luth ensemble avec des morceaux de papier collés. Et un autre livre, parlant d'instruments de musique, plusieurs siècles plus tard, décrit comment brûler des morceaux de papier avec un fer rouge de manière à fixer la colle immédiatement.
Burning the piece of paper with red hot iron so that it sets the glue.
D'une certaine manière, ça brûle la colle, donc vous avez votre morceau de papier soudé au fer rouge et vous pressez le papier. C'est vraiment comme une sorte de papier adhésif médiéval ou plutôt Renaissance dans ce cas.
Really like a well, no, in this case a Renaissance sellotape.
Et après, pour le décoller, comment est-ce qu'on faisait? How to remove it?
Ben. Oh, with water, warm water.
Oh, avec de l'eau chaude et tout s'en va. Et pour le scotch, il suffit de le décoller, bien sûr. Nous ne sommes pas habillés en artisans médiévaux, nous n'utilisons pas des outils médiévaux.
Il y a des gens qui le font vraiment comme ça?
No, I don't think so. No. There are people who play the music like that.
Non, je pense pas. Il y a des gens qui jouent de la musique comme ça. Je suis pas sûr d'être d'accord non plus.
the interesting thing is to recreate the sounds and so on and try, not really try to recreate the Middle Ages.
L'intéressant, c'est de recréer les sons, etc., et pas d'essayer de recréer le Moyen Âge. Je crois que l'origine de cela a vraiment été le désir d'un nouveau son, et peut-être un léger mécontentement avec les nouvelles compositions. Au début du XXe siècle, elles étaient très difficiles. Alors que recréer ces nouvelles sonorités anciennes était très intéressant et passionnant pour les gens. C'était tout un nouveau monde de sons, une nouvelle esthétique dans laquelle il valait la peine de se lancer, mais comme elle pénètre de plus en plus les canons de la culture muséale, de la musique, c'est difficile aujourd'hui, je pense.
But as it enters more and more the standard museum culture of music, it's difficult, I think. Observez le petit trou là et rapportez là, comme ça.
David Van Edwards, au XIIIe siècle, on avait aussi une musique très savante, très compliquée, avec l'ars nova, subtilior, etc.
Yes.
Et aujourd'hui, on a un retour à la musique du Moyen-Âge, à la faveur peut-être des compositions dodécaphoniques du début du XXe siècle, qui sont
yes.
éloignées des gens.
Yes, there seem to be two movements. One is the extreme complexity and subtlety.
Oui, il semble qu'il y ait deux mouvements. L'un est l'extrême complexité et subtilité de l'art polyphonique de l'école parisienne, Perrotin, etc., cette merveilleuse polyphonie sacrée. Et l'autre courant, c'est la musique de danse, plutôt joyeuse, que nous avons aussi entendu l'autre soir. Donc je pense qu'il y a ces deux approches de la musique.
Et les luths et les guitares sont seulement destinées à une musique relativement simple ou...
Yes, well, perhaps not the lute, but the guitar, yes.
Oui, peut-être pas le luth, mais la guitare, oui. Le luth, je pense, a toujours été un peu plus sophistiqué, même si l'iconographie montre les deux instruments joués ensemble. Dans ce cas, je pense qu'il s'agit de musique plus simple. Le grand changement est vraiment arrivé à la Renaissance, pas au Moyen-Âge, où ces deux instruments faisaient, je pense, de la musique simple. À la Renaissance, on a découvert comment jouer de la polyphonie sur le luth, et ça a été un grand changement. Tout à coup, le luth est devenu le centre de la musique élevée, et plus seulement de la musique de danse.
Dance music.
Est-ce que ça a beaucoup influé aussi sur l'instrument lui-même, le fait de devoir jouer de la polyphonie? On a beaucoup évolué aussi le luth à la Renaissance?
Yes, it developed more strings. It was partly a technique for playing with the fingers instead of with the
plectrum. Oui, il s'est développé par le nombre de cordes et aussi par une technique de jeu avec les doigts au lieu du plectre qui permet de jouer plusieurs voix à la fois. Des commentateurs de l'époque parlaient avec étonnement de certains luthistes qui pouvaient jouer plusieurs lignes de musique en même temps. Ça nous semble évident aujourd'hui.
Et c'est alors qu'on a aussi rajouté des chœurs et rallongé les manches et tout ça.
Yes, yes, the neck became wider, more strings. The development of the lute really is a story of more and more strings.
Oui, le manche est devenu plus large, il y a eu plus de cordes. Le développement du luth est vraiment une histoire d'ajouter et de rajouter des cordes jusqu'à ce qu'ils deviennent tellement compliqués au XVIIIe siècle qu'on le réserve aux professionnels. Et donc un manche plus large, plus de cordes, et je pense que la technique des cordes s'est développée aussi. Nous pensons qu'il était difficile de faire des cordes graves au son assez bas sans être trop lâche, et des cordes aiguës pouvant sonner assez haut sans se casser. Et on a découvert cela aussi, petit à petit, donc c'est un développement musique, instruments, cordes, qui tous vont ensemble.
À propos de cordes, si je peux encore vous demander, David Van Edwards, les cordes que vous allez mettre sur ces instruments sont des boyaux?
Yes, yes. Well, I have brought gut strings with me, and I expected.
Oui, j'ai apporté des cordes en boyaux avec moi, mais il semble qu'on va en utiliser de plus modernes, qu'on appelle du boyau de nylon. C'est du polypropylène qui a la même densité que le boyau. Mais je ne pense pas que ça sonne aussi bien, donc j'ai apporté des cordes en boyaux.
I've brought gut strings with me.
Il y a aussi le cordon boyau et le cordon boyau. Il y a un art de les préparer. Il y a des bonnes et des mauvaises.
Yes, it's become developed a lot now. A lot of research into gut strings.
Oui, ça s'est beaucoup développé récemment. De nombreuses recherches sur les cordons boyaux les ont améliorées énormément. En réalité, l'intérêt a grandi un peu après celui pour les instruments, mais nous réalisons maintenant combien c'est important, surtout pour le développement des cordes graves, et nous avons vraiment l'impression que pour les cordes basses de la Renaissance, nous n'avons pas encore découvert ce qu'ils utilisaient. C'est un champ de recherche tout à fait intéressant. Il semble qu'ils faisaient des cordes plus lourdes, d'une certaine manière, mais toujours souples. Plus lourdes que ce que nous pouvons faire, soit en ajoutant des fils métalliques, soit en faisant autre chose, parce qu'ils n'avaient pas encore développé l'idée moderne de tisser du métal autour du boyau. Cela semble arriver vers 1650. Avant ça, même d'après l'iconographie, il est clair qu'il n'y avait pas de métal, mais d'une façon ou d'une autre, ils pouvaient faire résonner leurs cordes basses, et nous n'arrivons pas tout à fait à le faire. À moins que leur esthétique des notes graves ait été très différente de la nôtre, peut-être qu'ils aimaient entendre un tonk sourd, ou bien c'était ce à quoi ils étaient habitués. Mais nous essayons de jouer cela et nous pensons « ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas soutenir la ligne de basse, donc c'est un problème pour l'instant ».
Et les cordes que vous avez apportées, c'est des cordes à partir de quel boyau?
Yes, they're sheep gut and they are made by Kushner in Germany.
Ce sont des boyaux de mouton faits par Kushner en Allemagne, mais il y a plusieurs fabricants, Aquila en Italie, Savares en France, et ils font tous de bonnes cordes en boyaux. Ce sont essentiellement des boyaux de mouton torsadés, mais il faut les nettoyer et les traiter avec des solutions alcalines, et c'est un long processus, ce n'est pas un travail qui me plairait.
C'est les mêmes qu'on utilise pour un violon baroque?
Yes. They have been less worried about the.
Oui, mais pour les violons, on se préoccupe moins des cordes en boyaux épaisses, parce qu'ils jouent les notes en continu avec l'archet. C'est en fait plus facile de faire parler une corde en boyaux, parce que la durée de la note dépend de l'archet. Tandis que pour les instruments à cordes pincées, la note meurt aussitôt qu'elle est née, donc nous dépendons plus de la qualité de la corde en boyaux que les violons.
We're more dependent on the quality of the gut strings than the violins. OK.
Alors, Lorenz, à force de faire ça, est-ce que vous sentez le côté, effectivement, la courbure un peu féminine qu'il faut donner à la lime pour arriver à faire cet instrument?
Exactement, oui.
Il faut faire attention d'être bien appliqué sur le tapis pour ne pas faire un éclat en dessous, là où on va le coller sur la table. Voilà, bonne chance.
Les éclats, c'est le souci numéro un, Philippe Matériau. Si le bois se fend, c'est fini, on doit changer complètement.
Oui, le chevalet est tout petit par rapport à l'instrument et c'est une surface de collage qui doit être vraiment parfaite. Alors si un petit éclat, un 2 mm de bois qui sont cassés là en dessous, ça ne va pas. On refait la pièce.
Et pour les tables aussi, on doit faire très attention. Il y a des risques où c'est un bois qui est tellement bien choisi qu'il y a peu de chances que ça se fende.
Qu'il se fende, oui, il y a peu de chance. Par contre, en le rabotant sur ce bois qui a des veines très très marquées, des fibres coupées par des veines de résine, on risque d'arracher une partie du bois. Et ça nous oblige à faire trop fin par rapport à ce qu'on avait envie de faire. Et un instrument avec une table trop fine a une sonorité trop courte, des sons qui ne tiennent pas. C'est en fait le plus important pour l'instrument. Alors là, il faut être prudent. C'est toujours la même chose, il faut que les rabots soient vraiment parfaitement affûtés. C'est aussi simple que ça.
Et on avait des rabots aussi bien au Moyen-Âge, vous pensez?
Je pense, oui. Des lames de métal excellentes et très bien affûtées. Il faut de la patience, en fait, pas autre chose pour bien affûter. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est tout à fait semblable. Ici, en tout cas, à l'atelier, on utilise des outils à main comme les ciseaux à bois, couteaux à bois et rabots. C'est des lames de métal, finalement, on a les mêmes qu'en 1500, oui.
Oui, mais quand, à l'époque, quand on devait les travailler, quand forgeron les travaillait à coups de marteau, on imagine que ça ne pouvait pas être aussi lisse et aussi précis que des instruments industriels actuels.
Non, c'est fait exactement de la même manière. La plupart des outils qu'on utilise, les gouges, les ciseaux à bois, c'est du fer qui a été forgé, martelé à la main. Et puis on les meule ensuite pour qu'ils soient bien lisses. Donc c'est exactement la même chose.
Puis David Van Antwerp a parlé tout à l'heure de la colle, qui est meilleure que ce qu'on trouve aujourd'hui. La colle ancienne à partir de peau.
C'est typique des luthiers en lutte. En tout cas, on peut très difficilement imaginer que les colles modernes, synthétiques, surpassent la colle animale. Elle a un immense avantage, David a dû le dire, c'est qu'on peut revenir sur un joint, on peut le reliquéfier en quelque sorte, cette colle, et défaire des joints, faire des réparations facilement. C'est une colle liquide, chaude, qui se glisse bien dans les pores du bois, qui imprègne le bois, et puis des surfaces où il y a finalement un joint avec très peu de colle, et c'est des joints hyper solides. Personnellement, depuis que j'utilise ces cordes, j'ai totalement abandonné toutes les colles viniliques modernes. Oui.
Et où est-ce qu'on les trouve ? Qui est-ce qui fabrique encore ces colles ? C'est des petits artisans ?
J'ai pas la réponse exacte à ça. Personnellement, je me fournis dans un magasin à Paris. C'est dans le Faubourg Saint-Antoine où il y a encore passablement d'ébénistes. Il y a un petit magasin spécialisé en colle et en vernis. Et ils appellent ça de la colle de Cologne. Donc peut-être qu'elle est toujours fabriquée à Cologne. En principe, c'est à base de peau d'oreille de lapin.
Et pas de vache, comme nous a dit David Van Antwerp. Il y a de la vache aussi, de temps en temps.
Celle que j'ai achetée, c'est de la peau d'oreille de lapin. Il y a de la peau de vache, il y a de la peau avec des sabots. Il y a de la colle en perles faite à base d'os. Il y a de la colle avec de la peau de poisson. Toutes sortes.
Touchés là par la pluie fribourgeoise et les cloches gruyériennes, nous abandonnons transitoirement ce troisième atelier de lutherie ancienne. David Mestri, nous le retrouverons demain, toujours avec des invités et à nouveau avec ce maître luthier anglais David Van Antwerp. Demain, il s'entretiendra aussi avec Francis Bidji et Avery Gosfield de l'ensemble Lucidarium, donc toujours pour rendre compte de ce qui se fait en termes d'instruments lors de ces journées gruyériennes qui se sont tenues, je vous le rappelle, en août dernier. Alors on va rester avec luth et guiterne, puisque je vous propose maintenant quelques œuvres de musique médiévale où on les entend seuls ou en accompagnement au chant ou à la vielle, ces deux instruments fabriqués à Gruyère. Je vous propose l'interprétation de l'ensemble Diabolos in Musica d'Antoine Gerber avec au luth Brice Duisit. Thank you.
Dans ses chansons et polyphonies de Trouvert des XIIe et XIIIe siècles que David Mestri tire d'un enregistrement La Chambre des Dames, nous écoutions l'ensemble Diabolos in Musica d'Antoine Gerber, qui tenait d'ailleurs la guiterne, Raphaël Boulet pour le chant, Florence Roberol à la vielle Archet et Brice Duisit au luth. Et je vous propose de retourner dans Musique en mémoire, presque à Gruyère, à l'audition d'une pièce interprétée par l'ensemble italien La Reverdi, qui était l'un des hôtes de cet atelier de lutherie ancienne. La Reverdi qui, là, interprète Très doux amis. Très doux amis, là interprété par l'ensemble italien La Reverdi, l'un des ensembles hôtes cet été, je vous le rappelle, en août dernier de cet atelier de musique ancienne à Gruyère. Et d'ailleurs, les invités de David Mestri demain seront deux membres d'un autre ensemble, Lucidarium, Francis Biggi et Avery Gosfield. Et c'est justement cet ensemble Lucidarium que nous écoutons maintenant nous interpréter La Caracossa.
Come rosa,
La Caracossa, une page médiévale, interprétée là par l'ensemble Lucidarium. Voilà, ainsi s'achève cette émission de Musique en mémoire. David Mestri, nous le retrouverons demain avec les invités de Lucidarium, justement. Mais sachons déjà nous souvenir que cette émission peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson, que c'est David Mestri qui signe aujourd'hui la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24. Notre adresse internet, espace2.ch.
L'affaire vous intéresse? Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit en nouvelle diffusion sur Espace 2, même si nous, c'est bien demain à 9h que nous avons rendez-vous pour la suite de cette série Lutry au Moyen-Âge. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments, pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Yves Bron.
Des musiques de Ravel, Elgar, Tchaïkovski et Fauré au programme d'aujourd'hui, l'occasion d'entendre ou de réentendre quelques-unes des nombreuses perles du répertoire occidental. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour et bienvenue.
L'île au trésor.
Et nous allons commencer cette émission avec le violoncelliste Paul Tortelier, un musicien français décédé il y a 15 ans maintenant, et qui a tout au long de sa carrière brillé sur les scènes du monde entier par des interprétations très expressives et pleines de fougue du répertoire pour violoncelle. Je vous propose de commencer par le prélude de la suite numéro 2 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, un extrait de l'enregistrement de l'intégrale des suites de Bach réalisées en 1983.